très attachés aux fruits d'été. Et même, nous les idéalisons au point d'être déçus quand ils sont trop chers ou quand ils sont cueillis pas mûrs. Alors Dieu, lui aussi, est très attaché aux fruits que nous portons. On trouve dans la Bible de nombreux enseignements à partir de l'image du fruit, de la récolte, des semailles, des moissons. Ce matin, je vous propose de revisiter plusieurs petites paraboles sur ce sujet. Et comme on est encore au mois d'août, je lance un grand jeu concours. À la fin du culte, pour gagner, il faudra envoyer par SMS le nombre de paraboles contenues dans ce message. Une corbeille de fruits sera offerte au gagnant, tirée au sort parmi les bonnes réponses. Alors, je suis censé appuyer sur le bouton. La première parabole sur les fruits que je voudrais voir ensemble avec vous ce matin, c'est celle que vous connaissez, là, qui s'affiche, Matthieu 7, versets 16 à 21. On la trouve aussi dans l'évangile de Luc. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous allez voir, Jésus est très dur. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dans l'évangile de Luc, on a la même chose et la fin est un petit peu différente. Jésus dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites pas ce que je vous demande ?» Bon, voilà, il y a des fois, Jésus, il est un peu sévère. Alors, revenons à l'image du fruit. Bon, l'image du fruit que Jésus utilise, hein, c'est pour dire on va reconnaître l'arbre. Mais on comprend que Jésus ne parle pas uniquement de connaître si c'est un chêne ou un abricotier. Et je pense que Jésus était suffisamment intelligent pour reconnaître aussi les arbres à leurs feuilles. Hein, par exemple, on reconnaît un figuier à ses feuilles. Voilà. Dans le jardin de ma voisine, il y a un magnifique figuier qui pousse. Et il y a des branches qui passent par-dessus le mur. Et quand on est arrivé dans la maison, moi je me suis dit, chic, je vais pouvoir profiter des figues. Sauf que c'est un figuier qui donne des figues sèches, elles sont immangeables. Elles pourrissent avant de mûrir. Vous savez, elles tombent, là, elles dégoulinent. C'est un beau figuier. Il y a des belles branches de mon côté du jardin. Mais c'est pas bon. Reconnaître un arbre à ses fruits, c'est une image, une petite parabole que Jésus utilise pour marquer les consciences et faire réfléchir. On comprend facilement cette image. Le fruit porté par une personne, c'est-à-dire ce que sa vie produit, ce qu'elle manifeste à l'extérieur de ce qui s'est passé à l'intérieur. Alors ce matin, la question se pose, quels sont les fruits que la vie chrétienne est censée produire ? Et ces fruits sont-ils présents dans nos vies? Ces fruits sont-ils perceptibles pour notre entourage, notre conjoint, nos connaissances, nos cercles d'influence? Alors pour répondre à cette question, il y a un problème principal, c'est que grosso modo, il y a deux genres de personnes parmi nous. Il y a les gens qui sont toujours contents d'eux, et il y a les gens qui sont toujours mécontents d'eux. Alors, je ne sais pas dans quelle catégorie chacun de vous se situe, mais ce qui compte dans le domaine, là, ce n'est pas tellement de savoir si tu es content ou mécontent de toi. Ce qui compte vraiment, c'est le regard de Dieu sur toi, en ce moment. Est-ce que Jésus considère que tu portes de bons fruits ou pas? Alors le fruit, pour éviter une mauvaise compréhension, rappelons-nous que ce n'est pas un truc instantané qui va surgir sur la plante. Non, c'est le résultat d'un processus qui se déroule sur une période de temps. Pour la plante, il faut d'abord que le bourgeon pousse, que la branche apparaisse, puis les feuilles, puis il y a la saison des fleurs, et puis ça ne suffit pas, il faut une fécondation, l'intervention extérieure, merci les abeilles. Le fruit va mûrir ensuite lentement, de nombreuses journées, semaine après semaine, et beaucoup plus tard, il pourrait être cueilli. Bon, je ne vous apprends rien, hein ? Vous connaissez tout ça. Et lorsque Jésus parle du fruit dans notre vie, il fait référence à ce processus, pas forcément rapide, et qui passe par des étapes. Encore une fois, Je ne suis pas sûr que Dieu s'intéresse vraiment aux choses ponctuelles, aux coups d'éclat qu'on peut faire dans nos vies. Non, le fruit que Jésus attend et espère dans notre vie mûrit lentement jour après jour, semaine après semaine. Et surtout, il va se manifester d'une manière particulière au travers de notre mode de vie, des orientations que l'on donne à notre vie. Alors dans mon jardin, j'ai deux citronniers qui donnent des fruits chaque année. Ils fleurissent à peu près en mars, et puis les citrons, on les récolte au mois de janvier d'après. Donc c'est très très long. Il faut donc 8 ou 9 mois. Mais ça ne suffit pas. Il faut beaucoup de soins. Il faut les arroser, il faut les tailler, il faut enlever les insectes, et il faut mettre de l'engrais. Et grâce à ça, j'obtiens chaque année une belle collection de citrons. Alors si j'oublie d'arroser, ben voilà ce qui se passe, la plante sèche, et au bout de quelques temps, c'est les fruits qui tombent en premier. Et on trouve par terre des petits citrons qui ne deviendront jamais jaunes et juteux. On reconnaît l'arbre à ses fruits. L'idée de Jésus est de dire, quand quelqu'un te rencontre, quand quelqu'un vit à ton contact, est-ce qu'il se dit, tiens, celle-là, celui-là, il a un truc en plus. Parce que ce que Dieu recherche, c'est de nous valoriser. Car au travers de nous, il s'agit de lui. Dieu cherche à ce que nous portions des fruits dans le monde pour que le monde reconnaisse que Dieu est dans notre vie. Alors, quels sont les fruits? Qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui nous caractérise dans notre travail, dans notre famille? Alors Jésus parle de plusieurs domaines de nos vies où il attend du fruit, et je voudrais en citer trois principaux. Le premier, je ne vous apprends rien là encore, hein, c'est notre caractère transformé. C'est l'image du fruit de l'esprit. Alors vous notez bien qu'il ne s'agit pas de nos fruits, mais du fruit de l'esprit. Il ne s'agit pas de notre travail sur nous-mêmes pour nous améliorer. Bon, dans notre société actuelle, hein, j'ai des fois un peu peur qu'on prenne la vie chrétienne pour ce même mouvement. Hein, dans notre société actuelle, il y a un grand mouvement pour l'amélioration personnelle. On fait des efforts, des activités pour s'améliorer à nos propres yeux, aux yeux des autres. Ça s'appelle l'épanouissement, le développement personnel, etc. Ça passe par toutes sortes de choses. Non, ce qui intéresse Jésus, c'est le fruit de l'esprit dans notre vie. C'est le fruit de l'esprit de Dieu dans notre vie. C'est ce que Dieu va faire pour transformer notre caractère, pour nous rendre semblables au caractère de Jésus. Alors le fruit de l'esprit, hein, vous connaissez par cœur, sinon rendez-vous à l'écolette pour le prochain cours. C'est l'amour au lieu de l'indifférence, la paix au lieu de la discorde, la joie au lieu de la râlerie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. Pour prendre un mot plus moderne, on pourrait dire la fiabilité, quand quelqu'un est fiable, la douceur, la maîtrise de soi. Dieu veut vraiment transformer notre caractère et il veut que ça se voie. Est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu es prête à lui donner ton autorisation pour cela, pour qu'il puisse continuer son travail? Le second fruit que Dieu attend dans notre vie et qui va nous distinguer de manière très forte par rapport à la société, c'est la générosité. Ça a marché. Nos contemporains font la course à la possession personnelle, à l'individualité. Et Dieu attend que nous soyons à contre-courant par la générosité. Donner de notre temps, de notre argent, de nous-mêmes, gratuitement, c'est quelque chose de tellement contraire à notre société que ça va inévitablement choquer, interpeller. Rappelons-nous que Dieu a été tellement généreux envers nous. Il veut que nous soyons semblables à lui dans ce domaine. Quand nous étions encore contre lui, il a envoyé son Fils qui s'est dépouillé de tout pour venir nous rencontrer. Dieu nous a offert jusqu'à la mort sur la croix de son Fils. Et Dieu nous offre généreusement à chaque instant son amour, sa bienveillance. Soyons généreux avec tous les humains, car Dieu est bon aussi avec tous les humains. Vous connaissez ce verset où il est dit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Jésus parle d'être généreux. On te demande ta tunique, donne aussi ton manteau, offre-le. Paul aussi va développer de nombreuses situations Bon, je n'ai pas le temps de toutes les voir ce matin. Le troisième fruit que Dieu recherche et espère dans notre vie, c'est le sens même de porter du fruit dans le Nouveau Testament. C'est transmettre le salut, c'est faire connaître Jésus. C'est le fruit le plus important que je veux développer ce matin pour nous réorienter. La parabole bien connue du semeur, un semeur sorti pour semer. Bon, vous rappelez tous les différents terrains dans lesquels tombent les graines. Je ne vais pas refaire la leçon des Colettes non plus. Il y a le chemin pierreux, les épines, etc., la bonne terre. Alors chacun de nous, on pourrait avoir la prétention de dire ben, « Moi, je suis la bonne terre, regarde, l'évangile a poussé dans ma vie. » Mais la parabole, ça, elle ne s'arrête pas là. Ce qui compte pour le semeur, ce n'est pas que les grains aient poussé, c'est qu'il y a la récolte. Et la parabole, elle termine en disant « Un grain donne 30, l'autre 60, l'autre 100. » Le grain qui pousse va donner un grand nombre de grains qui vont pouvoir être semés. Est-ce que tu donnes 30, 60 ou 100 ? Ou est-ce que tu pousses, mais que ça ne donne pas de fruits ? Il y a dans la parabole une situation où le grain pousse, mais il ne donne pas de fruits. C'est celui, dans l'image, il pousse dans les épines. Il est en partie étouffé, il reste stérile. Ça a poussé, mais ça ne donne pas de fruits. Et Jésus décrit les causes de manière très précise dans Matthieu 13, 22. Les soucis du siècle présent et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent stérile. Alors comprends bien ce que dit Jésus. Jésus n'est pas là pour nous accuser, il est là pour nous faire progresser. Si tu ne donnes pas de fruits, c'est que ta vie est encombrée par les soucis, par l'attrait des richesses, tout un tas de choses. Et Jésus attend un changement de notre part. Lui seul peut nous libérer des soucis du siècle et de la séduction des richesses. Seigneur, viens à mon aide. Alors Jésus, il est comme ça, il ne nous laisse pas tomber. Il a payé le prix pour nous libérer de ce qui nous entrave. N'imagine pas un instant que tu vas y arriver tout seul. Non, c'est Jésus qui va le faire en toi. Et grâce à lui, tu vas pouvoir commencer à porter du fruit. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les chrétiens, enfin, souvent, il se passe un truc assez bizarre. On a l'impression qu'ils deviennent un petit peu amnésiques. Une sorte de petite Alzheimer spirituel. Les chrétiens, j'ai l'impression, ont tendance à penser que Dieu ne s'intéresse qu'aux croyants. Et ils oublient que Dieu s'intéresse encore plus aux non-croyants. Alors les chrétiens ont tendance à se retrouver entre eux et rester entre eux. Et je crois que Jésus veut nous dire ce matin, « Eh les gars, les filles !» Arrêtez de penser que je vous ai sauvés pour que vous fassiez la fête entre vous. Non, on fera la fête tous ensemble dans le monde à venir. Remettez-vous au travail. Allez voir ceux qui ne sont toujours pas croyants, ceux qui ne sont pas encore entrés dans le royaume de Dieu, et aidez-les à rentrer. C'est votre boulot. Allez, remettez-vous en route. Rappelons-nous que Dieu s'est intéressé à chacun de nous, à moi, à toi, avant qu'on croie en lui. Jésus est mort avant qu'on naisse. Dieu s'est fait connaître à moi avant même que je commence à avoir de l'intérêt pour lui. Dieu s'intéresse aux non-croyants. Et nous, nous l'oublions. Réveillons-nous, les amis. On est sur terre pour faire connaître notre Jésus. C'est le fruit principal que Jésus attend et espère de chacun de nous. Alors, Jésus utilise une autre parabole dans Luc 13. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et j'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour. J'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » On voit encore que dans cette histoire, Jésus est sévère contre ceux qui ne portent pas du fruit. Si le figuier ne donne pas de fruit, on le coupe, on libère la place. Alors bien sûr, cette sévérité, elle montre la grande importance que Jésus donne à ce sujet. Alors une porte d'espoir est grande ouverte. Le propriétaire veut couper le figuier, mais le vigneron fait preuve de patience et même de foi dans le figuier. Oui, le vigneron a foi dans le figuier. Dieu a foi en nous. Je vais mettre de l'engrais pour stimuler l'arbre. Tout au long de l'année, je vais en prendre soin, je vais l'arroser. Et puis on refait le point l'année prochaine. Si l'arbre ne porte toujours pas de figues, ben on fera ce qu'il faudra. Alors qu'est-ce que veut dire Jésus par cette parabole ? Donc il attend véritablement que chacun de nous, nous portions du fruit dans le domaine de transmettre le salut. Mais Jésus donne une bonne nouvelle. On ne coupe pas tout de suite. On va attendre encore une année et on va mettre le paquet. Arrosage, engrais, comme mes citronniers. Ce qui est important dans la parabole, c'est qu'on voit que l'arbre, il a du mal à produire des fruits tout seul. Et ça, ça nous ressemble. Il faut vraiment une intervention extérieure. Il faut l'intervention du jardinier de notre âme. Et c'est Jésus lui-même qui va venir s'occuper de nous pour produire du fruit. C'est lui qui va prendre les choses en main, si tu le souhaites. Si tu lui donnes l'autorisation, il va mettre le bon fumier, le bon engrais, il va arroser quand c'est nécessaire. C'est l'image de tout ce que Jésus veut apporter dans notre vie terrestre et qui ne s'y trouve pas. Parce que dans le domaine des choses de Dieu, ça ne se trouve pas sur la terre, c'est des choses que Dieu apporte. Il va apporter notre soif spirituelle, le désir de plaire à Dieu, de lui permettre que notre vie porte du fruit. Ce n'est pas nous qui pouvons produire ça. Nous, on donne l'autorisation à Jésus. Et puis, il faut un petit déclic. Alors, pour susciter ce petit déclic, je vous propose un petit challenge. Je vais l'appeler le challenge du 28 septembre. Qu'est-ce qui se passe le 28 septembre ? Réfléchissez. Martine, tu peux nous le dire ? C'est le repas d'introduction du parcours Alpha. Et voici mon challenge, c'est dans un mois, tu as 4 semaines. Prie, tu as 2 semaines pour prier et tu as 2 semaines pour inviter une personne de ton entourage. Imagine la tête et la joie de Martine et de toute l'équipe s'il y a 30, 60 ou 100 invités le 28 septembre. Alors, je voudrais vous partager une nouvelle parabole. Elle ne se trouve pas dans la Bible. Elle sort tout droit de mon imagination. C'est la parabole des 2 oliviers qui vont chez le coiffeur. Donc, c'est les oliviers et les arbres, hein, pas les oliviers. Et oui, les oliviers vont chez le coiffeur tous les ans, au début du printemps, pour la taille de leurs branches. Et chez les oliviers, il y a 2 sortes de coupes, 2 sortes de tailles. La première, c'est la taille ornementale. On taille l'olivier pour qu'il soit joli, qu'il ait une belle allure, une belle apparence, une forme agréable, d'où le nom d'ornemental. Bon, vous en avez vu, hein, il y en a plein en ville, sur les ronds-points, etc. Hein. Ces oliviers, il faut le dire, hein, ils sont magnifiques. Un tronc bien dégagé, des branches orientées vers le haut. Quand il vient d'être coupé, le sommet est bien plat, c'est tout joli. Vous avez vu, là, j'ai même mis une version japonaise où il n'y a pas une seule... Bref, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, c'est très très beau avec la taille ornementale. Mais question production d'olives, c'est 0. Il n'y a rien, ou alors si peu. Et puis il y a une autre taille, celle qu'on trouve dans les champs, la taille agricole, la taille de fructification. Et elle donne à l'olivier une drôle d'allure, pas très jolie à voir. L'olivier n'est pas mis en valeur. On n'attend pas à ce qu'il ait un port élancé vers le haut et qu'il fasse joli. Mais au contraire, on veut garder à l'olivier une petite taille et faire pousser les branches vers le bas pour faciliter la cueillette. Mais cet olivier... il est couvert de fruits. La taille de fructification favorise non pas la belle apparence, mais la production des fruits. Alors Jésus prenait le temps d'expliquer ses paraboles à ses disciples quand il lui demandait. Alors, vous n'êtes pas mes disciples, je ne suis pas Jésus. Vous ne me l'avez pas demandé, mais je vais quand même vous l'expliquer. Quel type d'olivier veux-tu être ? Un olivier ornemental qui présente bien et qui fait belle allure ? Ou un olivier qui porte du fruit ? Énormément d'olives. Comment ? Ah non, on ne peut pas avoir les deux. Donc c'est bien entendu une image de notre vie spirituelle. Nous pouvons donner l'impression d'avoir une belle vie spirituelle, une belle allure. On est un chrétien bien sous tout rapport, tout comme il faut. Il y a une jolie couche de vernis. Mais malheureusement, ça reste stérile. Ça ne produit pas de fruits. À l'inverse, si nous acceptons de subir la taille de fructification, on va peut-être perdre notre superbe, avoir une allure moins sophistiquée, plus basique, mais tellement plus vivante et qui va porter du fruit. Alors pour finir ma parabole, il y a une fin à l'histoire des deux oliviers. Donc vous avez compris, il y a un olivier qui avait demandé la taille ornementale, et on a vu sa photo, et un autre olivier qui avait demandé la taille de fructification. Et l'olivier qui avait demandé la taille ornementale, il est devenu très triste, car il se rendait compte qu'il ne portait aucune olive. Et l'année suivante, il est revenu voir son coiffeur et lui a dit « Je veux changer de coupe ». Alors pour nous les chrétiens, ornementaux, ça démarre par une simple prière. « Seigneur mon Dieu, je suis passé à côté du but de ma vie avec ma jolie coupe de bon chrétien ornemental. Je t'en demande pardon, je ne produis plus de fruits. S'il te plaît, fais-moi une coupe de fructification et redonne-moi la joie de faire connaître Jésus à mon entourage. » Alors on avance, parce que la pendule avance aussi, et je voudrais continuer et terminer par un passage bien connu qui reprend tous ces points dans l'évangile de Jean, Jean 15, versets 1 à 8. « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il en porte encore plus. Vous êtes déjà purs ou déjà émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de lui-même du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Et puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Alors Jésus utilise à nouveau une parabole dans le domaine agricole du fruit, et cette fois-ci, c'est ni un figuier, ni une céréale, ni un olivier, mais c'est un plant de vigne. Alors ça tombe bien encore, nous on est favorisés dans le sud de la France, puisqu'il y en a partout. Donc, vous le savez, le plant de vigne est formé d'un petit tronc qu'on appelle le cep, et les branches, on les appelle les sarments. Jésus, dans cette image, se compare au tronc, et il nous compare, nous, aux sarments, aux rameaux, aux branches. Bon, c'est une simplicité évangélique, j'allais dire, mais les sarments vont porter du fruit s'ils restent attachés au tronc, car c'est le tronc qui leur fournit tout ce dont ils ont besoin pour se développer et fructifier. C'est la sève produite par le tronc qui va permettre aux rameaux de grandir et de porter des grappes de raisin. Belle image, simple et profonde, c'est du Jésus. Commençons par la fin du passage. Quelle est la finalité que Jésus attend et espère ? Il attend que nous portions beaucoup de fruits pour que son Père soit glorifié. Et il attend de nous d'être des disciples. Dans l'évangile de Jean, le mot « disciple » a un sens très particulier. C'est celui d'imitateur. Le disciple, dans l'évangile de Jean, c'est l'apprenti qui imite son maître et qui refait exactement ce que son maître fait. Toute la vie de Jésus a été orientée vers le fait de faire connaître le salut, d'amener des hommes, des femmes, des enfants à le rencontrer, à reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, le Sauveur, le Seigneur. Être disciple, c'est investir sa vie dans la poursuite de ce même but. Que ta vie serve à faire connaître Jésus, à amener des hommes et des femmes et des enfants à le rencontrer et à reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, le Sauveur, le Seigneur de la vie. Vous avez vu que dans cette parabole aussi, on retrouve la sévérité qu'on a déjà rencontrée dans les paraboles précédentes. Que se passe-t-il si un rameau ne porte pas du fruit? On le coupe. C'est dur, non? Est-ce que Jésus veut nous éliminer ou nous disqualifier? Non, encore une fois, non. Mais il veut nous faire comprendre l'enjeu. Comme pour le figuier, Jésus donne toujours une nouvelle chance, une nouvelle occasion. Tu peux redémarrer ce matin. Alors que se passe-t-il pour un serment qui porte du fruit? Il est taillé pour qu'il en corte encore plus. Alors vous allez dire, aïe, ça fait mal. Mais regardez bien, dans l'image, n'importe quel rameau, qu'il porte du fruit ou qu'il n'en porte pas, il est coupé aussi. C'est juste pas au bon endroit, pas au même endroit. Et pour les gens qui sont habitués à la culture de la vigne, couper une vigne, c'est être bienveillant envers elle. Si on ne taille pas la vigne, elle va produire tellement de rameaux, tellement de sarments qu'elle va s'épuiser et qu'elle va finir par mourir. On le voit des fois quand on se promène dans les champs, il y a des vieilles vignes qui ne sont plus entretenues et on voit que ça devient n'importe quoi. Et une vigne a besoin d'être taillée comme nous avons besoin de respirer. Alors, un point particulier que Jésus développe dans cette image du cep, c'est « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Cela rejoint l'idée de l'engrais dans la parabole du figuier. Ce n'est pas par nos efforts ou nos aptitudes que le fruit va être formé. Non, c'est uniquement par notre attachement au cep. C'est le tronc qui va fournir la sève. C'est lui qui transmet la vie. Vous ne pouvez pas porter du fruit si vous ne demeurez pas en moi. Diagnostic de Jésus. Si tu ne portes pas de fruit, c'est que tu ne demeures pas en lui. Alors Jésus ne parle pas d'avoir une doctrine juste ou de vivre une religion régulière, d'aller au culte tous les dimanches, faire telle ou telle chose. Non, tout ça c'est bon, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça l'essentiel. Ce qui est nécessaire, c'est de rester attaché à Jésus. C'est d'avoir une relation vivante avec lui chaque jour, de recevoir de lui chaque jour la sève, notre dose de vie spirituelle de sa part. Ce n'est pas nous qui la créons. Et c'est à la fois une promesse. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Alors Jésus, en disant ça, il a bien conscience aussi que les croyants sont capables de ne pas demeurer en lui. C'est pour ça qu'il nous incite à revenir à lui. Seigneur, viens à mon aide. J'ai tant de mal à rester attaché à toi. Des fois, on se sent sec spirituellement. Mais là, dans l'image, Jésus dit, si tu es sec, c'est que le sarment il a été coupé. Donc il se dessèche tout seul, c'est normal. Là encore, Jésus dit, viens, rebranche-toi. Troisième promesse que Jésus nous offre dans ce passage. Si nous demeurons attachés à lui, alors non seulement nous allons porter du fruit, mais aussi tout ce qu'on lui demandera nous sera accordé. C'est le secret de la promesse de nos prières exaucées, particulièrement dans le domaine de porter du fruit, en restant attachés à lui, en recevant de lui ce que nous ne pouvons pas produire. C'est sa sève qui coule en nous et qui nous transmet toutes les choses qui viennent du ciel. Alors j'en arrive à la fin. On voit que Jésus utilise la nature pour nous enseigner, nous faire connaître les réalités spirituelles que Dieu veut nous faire vivre. Nous avons vu que Jésus et Dieu le Père attendent et espèrent que nos vies portent du fruit, transformation du caractère, générosité, et très précisément faire connaître le salut offert par Jésus autour de nous. Dieu aime les non-croyants. Il a besoin de nous pour le leur dire, pour leur montrer. Jésus attend et espère que nous devenions ses disciples, pas simplement en étiquette, mais en action, en vérité, en imitation, en faisant connaître Jésus autour de nous, dans notre zone d'influence. Nous avons vu que Jésus vient à notre aide pour porter du fruit, car nous ne pouvons rien produire par nous-mêmes. Jésus vient fertiliser notre vie avec son engrais, son fumier, pour que nos vies portent du fruit. Nous avons vu que le secret est de rester un intime de Jésus, rester attaché à lui, demeurer en lui et recevoir sa vie en nous, comme la sève qui se transmet du tronc à la branche. Alors pour terminer, certains diront « Oui, mais moi je ne suis pas assez mature pour ça. C'est bien tout ça, mais ce sera pour plus tard, quand j'aurai plus grandi. » Mais ce n'est pas vrai ça. Regardez bien une plante. Sur la même plante, vous avez à la fois la branche qui va porter des fleurs et des fruits, et à la fois le petit bourgeon qui va se développer plus tard et qui portera des fruits l'année suivante. Quel que soit l'âge de ta vie spirituelle, tu as des différents niveaux dans ta vie. Les différents aspects de ta vie sont à des aspects de maturité différentes. Certaines parties de ta vie sont déjà prêtes à porter du fruit. D'autres porteront du fruit plus tard. Es-tu prêt à recevoir de Jésus ce matin sa sève, sa vie pour porter du fruit? Amen. Je propose de prier ensemble. Seigneur Jésus, nous avons l'impression que nous sommes maîtres de notre barque. Et vraiment, nous voulons réaliser que ce matin, et pour tous les jours de notre vie, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ta sève spirituelle. Nous avons besoin que tu viennes nous tailler, nous donner la bonne forme, que ce soit les bons bourgeons qui poussent dans nos vies, ceux qui vont produire du fruit, et non pas ceux qui vont faire que des grandes branches qui ne servent à rien. Aide-nous, Seigneur, à prendre de l'intérêt pour les gens qui nous entourent et que nous puissions leur témoigner de la générosité de ta part. Nous puissions leur montrer que l'Évangile, ce n'est pas des histoires de grand-mère, mais que c'est vrai par nos caractères qui sont transformés. Et que aide-nous, Jésus, à amener des personnes à te connaître, toi le seul vrai Dieu. Amen.